France Inter.
C'est comme pour un acteur, c'est la personnalité. La présence.
Si vous répondrez non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule les ténèbres. Ok ?
Ça peut couler, hein.
On n'a pas tout.
Allez, action !
Ce qui sera encore mieux, c'est de rien dire.
D'un côté, des humains captifs d'un système corrompu. De l'autre, des êtres blessés hors système et qui dansent dans le désert. Deux regards, deux grands films sur notre affiche ce matin. Bonjour tout le monde, heureuse vraiment de vous retrouver. Salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à tous et à toutes. Belle nouvelle saison.
Une maison quatre voies entre conflits familiaux et tabous d'une société dominée par les valeurs patriarcales. Bonjour Skandar Kopti.
Bonjour.
Réalisateur mais aussi acteur et monteur palestinien né à Tel Aviv Jaffa. Sur nos écrans depuis mercredi, votre deuxième film après Ajami, mais le premier réalisé en solo, Chronique d'Haïfa, histoire palestinienne. Une vision nuancée et subtile sur votre société. À vos côtés, votre voix française. Bienvenue Xavier Combes. Au cœur des montagnes du sud marocain, un homme accompagné de son fils recherche sa fille qui a disparu avec un groupe de ravers. Ils seront confrontés à leurs limites. Bonjour Oliver Laché.
Bonjour.
Votre film Sirat a été l'électrochoc de Cannes, d'où il est reparti avec le prix du jury. Sirat, le pont qui relie l'enfer au paradis et que devra notamment traverser Louis. C'est vous. Bonjour Sergi Lopez.
Bonjour, ça va ?
Dans le désert, un grand acteur pour incarner cet océan d'émotions. Enfin, les sorties de cette rentrée, c'est parti, yalla.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
انا كنت بكاشر مع واحد يعني بس ماشيرلي
tu sais j'étais avec quelqu'un elle s'appelle Shirley et je l'aime mais il y a eu un événement imprévu elle est enceinte elle veut absolument garder l'enfant
وهي مش عم تعطيني مجال بس بدها الولد ولا شيء ثاني
c'est tout je ne sais pas quoi faire
ومش عارف ايش اسوي يعني بدي تعرف انه انا معك فيش حاجه تخبي علي ولا
شيء sur moi tu peux tout me dire
ايش اسوي ايش اسوي
Qu'est-ce que je dois faire ?
Pourquoi elle veut ce bébé à tout prix ?
Pourquoi elle veut ce bébé à tout prix ? C'est son corps, mais ça nous concerne tous les deux.
Et
si c'est la seule option, tu vas l'épouser ?
Non, c'est pas une option.
En aucun cas.
Ça ne marchera pas. Je veux pas être égoïste vis-à-vis de ma famille.
Tu préférerais qu'elle l'ait sans toi ?
Non, je préférerais qu'elle ne l'ait pas. Point. C'est impossible.
C'est presque le point de départ de votre film Chronique d'Haïfa, Skandar Kopti. Un homme se confie à son ami. Il ne veut pas garder l'enfant que sa compagne attend. Une situation très souvent vue au cinéma. Sauf que là, Rami est palestinien et Shirley, juive israélienne. Ça mériterait peut-être une toute petite leçon d'histoire sur Haïfa, la troisième grande ville d'Israël, qui a été intégrée en 48 au nouvel État d'Israël, avec une histoire très mouvementée, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est une ville où coexistent désormais juifs, musulmans, chrétiens, catholiques orientaux et druzes. Je ne veux pas être égoïste vis-à-vis de ma famille, dit Rami. Est-ce que ce serait pas cette réplique la principale du film Skandar Kopti, chaque décision d'un individu finalement influe sur tout le groupe.
Yes, absolutely. I think the film deals with this intersection
c'est tout à fait ça. Le film traite de ce mélange entre l'individualité, la culture et la situation
and
sociopolitique.
Dans
des sociétés comme celle-là, il est difficile de rester fidèle à son individualisme, car celui-ci peut nuire à la société. La société s'auto-régule en quelque sorte avec sanctions, récompenses et la sanction. Elle n'est pas individuelle. La sanction, quand il y a sanction, touche la famille. Et en plus de ça, il y a d'autres problèmes dans le film. Fifi, cette jeune femme, et sa mère est très préoccupée, non pas simplement pour la destinée de Fifi, mais pour l'ensemble de sa famille. Et il va y avoir le mariage de la sœur de Fifi. Donc, encore une fois, l'individu lui-même n'a pas beaucoup d'espace pour évoluer. Alors, tout ça c'est sur fond d'amour, et ainsi de suite. Les intentions sont bonnes, mais néanmoins, on peut faire beaucoup de mal aux autres.
Le point de départ de votre film, c'est cette réflexion d'une mère à son fils qui lui dit que il doit garder les valeurs patriarcales. C'est vrai que ces valeurs patriarcales dans votre pays, votre région, sont conservées bizarrement par les femmes.
Mm-hmm. Yes, I think it has to do with the way values work.
You know, values. C'est dû au fonctionnement des valeurs. Les valeurs, on les hérite des gens qu'on aime le plus.
And we don't question them.
Et on ne les remet pas en question. Parce que ces gens, nous les aimons, on leur fait confiance, et ils apportent la connaissance aux petits, aux jeunes, aux enfants. Étant donné que nous sommes des créatures sociales, nous avons tendance à préserver nos valeurs parce que nous voulons appartenir à un groupe.
When we figure out
et
that
lorsque
they are
on
oppressive,
comprend que ces valeurs nous oppressent, et cela a dû avec le fonctionnement de la société, avec un système de sanctions et récompenses, comme je l'ai dit, eh bien nous savons que nos êtres aimés vont souffrir dans la société. Donc par amour, on veut les protéger. Et qui aime une femme le plus, eh bien c'est sa mère, évidemment, en l'occurrence. Et c'est pourquoi les femmes maintiennent le patriarcat, comme vous le dites.
Vous dites que la société palestinienne a les principaux moteurs dans la vie, l'honneur, la honte, et la réponse à l'éternelle question, qu'est-ce que les gens vont dire ? Mm-hmm. En fait, c'est une question de réputation. Cette mère qui ne peut pas payer la robe de mariée de sa fille, etc., c'est lié aussi à l'argent, quoi, à l'image qu'on donne aux autres.
Yes. Absolutely, I think we are.
C'est tout à fait cela.
Governed by a lot of forces to be.
Nous sommes régis par pas mal de forces, dont certaines sont financières. Bon, c'est universel, ça. De combien d'argent dispose-t-on? À quelle classe sociale appartient-on? Quels sont vos propres degrés de réussite? Et dans ma culture, cela a un retentissement sur sa propre destinée. Qui va-t-on épouser? De quelle famille allons-nous faire partie à terme? Donc tout cela est crucial pour tout le monde. Et au bout du compte, la rumeur, le on dit, c'est le qu'en dira-t-on, c'est une grande force dans la société.
Mais
cette histoire d'honneur, c'est pas très important. Dans le film, la mère ne se préoccupe pas tellement de son honneur, mais le qu'en dira-t-on, ça, c'est primordial. Tant qu'on peut mener une vie double et que personne n'en a conscience, tout va bien.
C'est un peu secret et mensonge, non?
Yes, absolutely. It's all about it's like secrets and lies.
C'est ça, oui, vous faites référence à secrets et mensonges, c'est un peu cela, oui. C'est de ça qu'il s'agit, parce que pour préserver sa propre identité, il faut mener une double vie, toujours.
Skandar, je parlais de Haïfa et du mélange des populations et des religions. Il faut signaler dès maintenant, et c'est très important, que votre film a été tourné avant le 7 octobre. Est-ce que vous auriez tourné un film différent, finalement? Est-ce que les tensions se sont exacerbées depuis dans cette ville où apparemment les religions coexistent?
That's a big question.
Vaste question.
The situation, you know, on the ground has completely changed.
La situation au quotidien a totalement changé. Je ne dirais pas que Haïfa, c'était le parangon de la vie de partage entre les individus et les cultures. Alors, il y a une vie économique, il y a un monde des affaires, certes, là, il y a du partage, mais pas vraiment d'intégration entre les cultures. Du point de vue de l'éducation, il n'y a qu'une école bilingue à Haïfa, où on accueille les enfants palestiniens et israéliens. Sinon, il y a de la ségrégation dans le milieu scolaire. Après le début du génocide, les choses sont devenues très compliquées. Tout est surveillé. 107 étudiants palestiniens expulsés de l'université. Donc, au sein de la communauté palestinienne, il y a beaucoup de peur. Il y a beaucoup de gens qui ont été virés de leur boulot parce qu'ils ont posté un like. Et il est devenu impossible de mener une vie normale parce qu'on est vite accusé d'être sympathisant des terroristes. Et d'un point de vue psychologique, eh bien, vous vous levez le matin, vous avez peut-être un collègue israélien et vous dit, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que tu penses de la situation? Eh bien, vous êtes palestinien. Eh bien, vous pouvez pas dire ce que vous pensez. Parce que on va vous virer du boulot. Ou alors on va peut-être même vous emprisonner. Donc, on devient hypocrite.
et on perd son identité. On répond de façon vague, on dit « Ouais, espérons que tout ça, ce serait bientôt fini. » Alors qu'au fond de soi-même, dans son fort intérieur, on ne peut pas supporter ce qui se passe à 200 km d'Haïfa. Donc la situation est particulièrement dure. Moi, je reviens juste... de Haïfa il y a 2-3 semaines et j'ai vu que les gens sont dévastés principalement parce qu'ils ne peuvent pas livrer leurs émotions ou s'exprimer comme ils le veulent.
Je le disais, vous avez un regard subtil, mais sur les deux communautés, bien sûr. Et sur la société israélienne, pareil, il y a aussi du patriarcat et puis une militarisation de la société.
Yes, I mean, absolutely, you know... How would you
Tout à fait.
Convince good people, good
Comment
human beings,
convaincre
own, you know, Israelis, that,
des honnêtes gens,
totally
des Israéliens,
Europe,
qu'il est tout à fait normal d'être venu d'Europe sur un territoire où on a expulsé 750 000 personnes, où on a détruit environ 500 villages, on a créé l'un des plus grands problèmes de réfugiés à l'époque, en dehors de la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Et que tout va bien, Madame la Marquise. Donc, il faut créer de la peur. Donc, il faut de la peur, il faut un objectif pour maîtriser la population. Ça, c'est ce que font pas mal de chefs politiques. Et c'est comme ça que ça fonctionne. La militarisation sert l'idée du sionisme, de la persécution, du fait que nous avons besoin de nous défendre. Pour nous défendre par rapport à qui, aux gens dont on occupe le territoire. Donc, c'est très facile de convaincre les gens si on commence à les endoctriner dès leur plus jeune âge. Donc, on commence comme ça à l'école. Alors, évidemment, moi, je peux vous parler de la façon dont je travaille. Tout est improvisé. Bon, mais il y a des documentaires qui documentent tout cela très bien. Et pour moi, tout cela me brise le cœur. Voir un petit enfant de 4-5 ans dire « Moi, je ne veux pas que mourir en tant que soldat. » Quand on a 4-5 ans, il ne faut pas penser à ça. Mais 18 ans plus tard, eh bien, ils sont complètement indoctrinés. Ils sont convaincus que ce sont des combattants et qu'il faut aller défendre sa patrie.
Je vais vous faire écouter un message de paix délivré par le cinéaste qui est en face de vous, Oliver Laché, à Cannes, quand il a reçu son prix. Un message de cohabitation.
J'étais en taxi avec un taxiste palestinien. Et en fait, on était en train de parler que lui, il était palestinien, moi, espagnol. Lui, il disait, bon, mais moi, peut-être, j'ai été juif il y a longtemps. Et moi, je lui disais, mais moi, pareil. Moi, peut-être, j'étais musulman, juif. En plus, je suis galicien, donc viking, un peu germanique même, non? Enfin, des vrais bâtards, quoi. Et en fait, il m'a dit une phrase qui est extraite du Coran, c'est « Sawabu qabei litarafu », à peu près. Qui veut dire « On vous a fait de tribus différentes pour que vous vous entreconnaissez ». En fait, c'est de nous rassembler ici de plusieurs latitudes culturelles, dans ce merveilleux jeu de miroir qui est le cinéma, et apprendre à voir le monde toujours comme si c'était la première fois, avec des nouveaux yeux. Donc voilà, vive les différences, vive les cultures, et vive le Festival de Cannes.
Vous avez acquiescé, Skandar Kopti, c'est un beau message.
It's a very, very beautiful message. If it's shared by
un message d'une très grande beauté à condition qu'il soit partagé par toutes et tous. Si vous n'arrivez pas à partager ça avec le chauffeur de taxi ou avec quelqu'un d'autre, eh bien, ça ne fonctionne pas, ce que vous dites. Et s'il y a d'une part des gens qui pensent être supérieurs, eh bien, ça devient problématique. Le peuple élu.
Can be really explained
voilà une notion délicate. Tout peut être expliqué par cette notion de supériorité. Et là, ça ne fonctionne pas. Mais voilà.
Une parenthèse, Oliver Laché. C'est vrai que vos personnages dans vos films sont souvent des étrangers, des types à côté d'une population. Donc c'est un truc qui vous tient vraiment à cœur, quoi, cette association des âmes et des peuples et des humains.
Oui, tout à fait. En fait, je suis un peu un voyageur.
Oui.
En fait, moi, déjà, je suis né ici en France, mais je suis fils d'immigrants galiciens. Enfin, Voilà.
Skandar Kopti, vous travaillez très, très bizarrement avec des acteurs non professionnels. Votre méthode, elle s'appelle Singular Drama. Ça veut dire quoi, alors?
Ça veut dire pas beaucoup. It's, I teach a course about this method that
j'enseigne cette méthode
NYU, Abu Dhabi, New York University, Abu Dhabi.
À l'université de New York à Abu Dhabi. Et on m'a donné pour mission de trouver un intitulé. Singulaire, ça veut dire exceptionnel, unique.
Drama of each person.
Donc c'est la théâtralisation de chaque personne. Donc je ne donne pas de scénario aux non-acteurs. Je choisis ces gens-là selon leur vie professionnelle dans les chroniques d'Aïfa. Par exemple, celui qui joue le médecin est médecin, celle qui joue l'infirmière est infirmière dans la vie. Fifi était étudiante. Vous voyez,
ils
représentent leur vrai métier. Ensuite, je travaille avec pas mal de gens de la même profession. J'ai travaillé avec plus d'une soixantaine, près de 60 médecins pour arriver à constituer la personnalité. Donc, je veux quelqu'un qui soit charismatique, quelqu'un que l'on aime bien. Quelqu'un d'incontournable. Donc j'ai trouvé le personnage de Walid pour incarner le médecin. Donc moi, je bâtis les relations sur le tournage. On vit ensemble, les personnages conçoivent leur propre environnement de vie, ils se bâtissent leur histoire personnelle et les conflits. Ensuite, on fait le tournage de façon chronologique, du début à la fin. Ils apprennent ce qu'il advient de leur personnage au fur et à mesure. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de perche, lumière, ainsi de suite. Moi, je suis derrière le moniteur avec deux caméras, je parle au chef-op et ensuite on tourne, on fait les rushs et après le montage.
L'acteur Sergi Lopez vous écoute attentivement, vous en pensez quoi de cette méthode ?
Ben, c'est comme des tribus différentes. Mm-hmm. Moi, j'ai la chance de participer à des tribus très différentes. J'ai la chance de travailler avec des réalisateurs, des réalisatrices, des regards cinématographiques très différents. Il y a plein de méthodes et moi, j'adore cette espèce d'explosion de méthodes différentes. Donc voilà, en fait, on essaie tous d'atteindre quelques petites parties de vérité. Et voilà, il n'y a pas une formule absolue, donc c'est très intéressant.
Skandar Kopti, donc, c'est vous qui tirez toutes les ficelles.
Yes, without people knowing this.
Oui, mais personne n'est au courant.
It feels that they're driving, you know, the film, because sometimes we do take the chance and they decide to go somewhere which is not in the script, and I will go with them.
Et les comédiens essayent de prendre des initiatives et on les suit, et puis voilà, parfois ça marche très très bien.
Merci, vous restez avec nous, bien sûr, chronique d'Haïfa, histoire palestinienne, est sortie mercredi, il a très bien démarré, on en est très heureux. Et maintenant, on part dans le sud marocain. Vous nous suivez, là ?
Comment ?
Pardon ?
Est-ce que vous nous suivez ?
Bon, non.
Disons que...
Si.
Oui.
On
voulait la fête, nous aussi.
Non, c'est pas une bonne idée, tu le savais.
C'est pas une bonne idée, tu sais.
Je
veux retrouver ma fille. Elle y est peut-être.
Qu'est-ce qu'il veut ?
C'est le monsieur qui cherche la fille.
Il dit qu'il veut nous suivre.
Seguirnos.
Nous suivre ?
T'as de broma ?
Tu rigoles ou quoi ?
C'était cocheno va passer.
Ta caisse va lâcher.
C'est le coche que tenemos.
Mais j'en ai pas d'autres.
No lo veo, tío.
Ça le fera pas.
Las pistas son muy peligrosas.
Les routes sont dangereuses.
Mejor que no vengáis.
Faites demi-tour, sérieux.
Yo creo que tú no has entendido dónde te estás metiendo.
Je crois que tu comprends pas bien où tu vas.
Eso es el desierto.
C'est le désert ici.
C'est un problème que vamos a hacer.
Tu feras quoi s'il y a un souci ?
Bien.
On vous suit quand même.
No nos queda otra.
On n'a pas le choix.
Si, podéis volver.
Faire demi-tour.
Au cœur des montagnes du sud marocain, Louis, c'est vous, Sergi Lopez, accompagné de son jeune fils Esteban. Recherche sa fille aînée qui a disparu. Ils vont rejoindre un groupe de ravers en route sur une autre fête dans les profondeurs du désert. Sirat est votre quatrième film, Olivier Lachey. En deux mots, pardon, votre parcours espagnol plus que français, même si vous êtes né ici, grandi à Paris. Vous découvrez vraiment le cinéma à Barcelone et puis le Maroc où vous réalisez vos deux films. Vous êtes tous des capitaines sur votre expérience d'éducateur, Emmy Moza, et puis retour en Galice avec Viendra le feu, et retour au Maroc avec Sirac, même s'il y a beaucoup d'Espagne dans ce Maroc, dont le titre dont est expliqué au début du film, Sirac, le pont qui relie l'enfer au paradis, le chemin intérieur qui nous pousse à mourir avant de mourir. Ça veut dire, ça vient d'où cette idée de titre?
En fait, c'est venu, je crois, un mois avant la sélection à Cannes. Et Sirat, c'est un mot qui se répète beaucoup dans les prières en islam. Et Sirat aussi veut dire la voix. Une voix qui est Vérieux. Physique, mais aussi intérieure, métaphysique.
Ouais.
Religion. Comme le film.
Comme le film, exactement. Cette expérience ultime que vous mettez en scène, en fait, vous mettez des humains au bord d'un précipice, un petit peu.
Je pense que la vie fonctionne comme ça. La vie, elle nous pousse jusqu'au bord et nous demande qui on est. Elle le fait, elle nous exige, elle est dure des fois, mais toujours pour des raisons bénéfiques.
Un précipice virtuel,
oui,
et physique.
Effectivement.
Nous sommes tous un peu comme Louis, nous avons grandi dans un certain confort en Occident, toujours à distance de la mort. Nous sommes trop à distance de la mort, nous, en Occident.
Oui, je crois. On avait avant des cérémoniales pour l'expérimenter, pour la méditer. On ne les a plus. La société, elle s'est vraiment beaucoup désacralisée. Et du coup, l'angoisse et la peur, elle a pris la place. Donc on s'échappe de plus en plus de cette mort, à la place de la prendre comme un allié ou comme une porte à grandir.
Et pourtant, la mort est plus proche, par exemple, dans la société espagnole que française, déjà. Enfin, un petit pas de plus.
Un tout petit peu plus. La tradition, ouais, elle est un peu plus fort. Il y a un écho un peu plus fort, mais on a un peu la même, on est dans la même narcose. Moi, ce que je voulais avec ce film, surtout, c'est que les spectateurs regardent à l'intérieur. Et des fois, bien évidemment, regarder à l'intérieur, c'est pas facile. C'est pour ça qu'on est tellement dans la distraction. Ce qu'on voit à l'intérieur, des fois, c'est obscur. Mais voilà, il faut le faire.
Sergi Lopez, vous avez jamais autant approché même l'idée de mort que dans ce film-là, Sirat. Vous, comédien, vous, homme, quel est votre rapport? Pardon, c'est une question énorme, mais c'est votre rapport,
oui,
à la mort.
C'est pas mal. C'est... moi, homme, on va voir. Moi, acteur, oui, c'est vrai, c'est le film où j'ai dû me poser la question de plonger dans une douleur extrême, par exemple plus frontale, que j'avais jamais fait. Moi, homme, disons, enfin, la mort, c'est un truc qui me travaille depuis un moment, c'est quelque chose que j'y pense beaucoup. Et, mais c'est vrai que ce film aussi a déclenché encore plus de méditation sur cette idée. En même temps, je dois dire qu'en tant qu'acteur, j'ai eu la chance d'avoir cette révélation, de pouvoir jouer la douleur, pouvoir essayer de jouer la douleur extrême dans la joie, enfin pas dans la joie, mais dans le plaisir de jouer.
Ouais. Skandar Kopti, Oliver Latché parlait de la religion musulmane, les sirats, c'est une notion qui vous touche, que vous connaissez, que vous appréhendez?
I mean, I'm not a Muslim.
Non, mais par rapport aux musulmans, vous êtes chrétien, par rapport aux musulmans que vous connaissez.
Yes, the idea that he talked about.
Oui, cette idée qu'exprime Olive, cette idée de la perte de la spiritualité, la désacralisation, comme il dit, dans la société occidentale. Moi, je vois la distanciation que nous avons maintenant par rapport à l'Occident. Et je crois qu'il est plus facile de vivre dans une société où il y a des cérémonies. Des cérémonies pour tout, mais aussi des cérémonies pour la mort. Cela allège le poids des épaules. Et on sait faire ça. Et on voit ça dans le film, d'ailleurs. Il y a pas mal de cérémonies, la préparation du mariage, par exemple, tous ces préparatifs qui allègent le poids que les individus portent sur leurs épaules.
Vous faites une association très touchy, Oliver Latché, entre le pèlerinage à la Mecque, où ces gens tournent indéfiniment, c'est une image terrible qu'on voit à la télé, et ces rêveurs qui dansent. Qu'est-ce qu'il faut y voir là-dedans, entre ces deux marches, finalement?
Bon, moi je crois que le cinéma... et un art qui invite à la polysémie, à sentir plusieurs choses, chaque spectateur sent plusieurs choses. Si je voulais être clair et que cette séquence ait qu'un sens, je l'aurais été. C'est facile d'être clair. C'est facile de dire, mais c'est difficile d'évoquer. Donc, en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est deux dimensions qui m'invitent. J'aime le Coran. C'est une récitation faite par Ali Killer, un ami récitateur qui habite à Grenade, qui a une grande gradation spirituelle, on va dire, et on le sent dans sa voix. Et j'aime la techno, j'aime la musique électronique, donc je m'assume, voilà, c'est mon imaginaire. Et bien évidemment, comme ça m'habite, je sens qu'il y a quand même, voilà, il y a un lien, bien évidemment.
Qu'est-ce qu'il y a dans cette musique et dans cette... on va entendre un morceau de cette musique. Qu'est-ce que vous aimez là-dedans? Dans cette transe, on dit souvent que dans une rêve... Faut y entrer, après on est dans le cercle. On peut très bien être exclu dès le début, un petit peu comme le personnage de Sergi Lopez, qui comprend pas bien, qui est dans la douleur de la perte de sa fille, et qui voit ces gens danser. Pourquoi ces gens dansent finalement? Quand je disais au début qu'ils étaient hors système, ils refusent toute politique, toute injonction de la société?
Au contraire, ils refusent pas toute politique, ils sont très politiques.
Pas politique, mais toutes les injonctions de la société, je veux dire,
ils essaient d'avoir
le confort...
Ils essaient d'avoir de la cohérence et d'avoir de la cohérence radicale, et c'est difficile. On veut tous c'est que tes actes soient liés à tes pensées. Qu'est-ce qu'ils cherchent dans la danse? Je crois que leurs corps ont une mémoire de tous ces milliers et milliers d'années où l'être humain allait faire ces cérémonies où il faisait une vraie catharsis avec son corps. Les anciens Grecs, par exemple, ils allaient pas au théâtre s'amuser et prendre l'apéro et après parler du théâtre. Ils allaient faire un vrai travail, une vraie cérémonie, purger leur énergie, purger leurs fantômes, faire une catharsis avec leur corps. C'était très nécessaire. C'est pour éviter que dans le jour à jour, tous ces fantômes influencent négativement la société. Donc c'est ça qu'ils font les rêveurs, et c'est ça qu'on devrait faire un peu la plupart. Donc voilà, et la musique donc, que j'ai choisi, ce techno, je crois qu'il est très relié à la musique, aux musiques traditionnelles du monde, notamment la mienne, la galicienne. Il y a quelque chose de très tribal et les battements du cœur en fait qui nous enracinent, en fait qui nous font du bien. Et après dans le film, il y a d'autres moments où la musique elle est un peu plus existentielle. Et il y a d'autres où la musique électronique s'approche plus à la musique sacrée. On dit toujours que c'est plutôt la musique classique qui s'approche à la musique sacrée. Mais je crois que la musique électronique, le fait que la source de ce son soit ambiguë, qu'on ne connaisse pas cette source, permet à des cinéastes comme moi, qu'on veut évoquer le mystère de l'univers, nous permet, ou la transcendance nous permet vraiment de faire sentir à les spectateurs, voilà, cette intelligence qui est derrière toutes les choses, non?
Et tous ces hommes et ces femmes qui dansent, ce sont des gens qui dansent aussi dans la vie. Vous les avez rencontrés comment? Et est-ce que surtout ils ont dansé live avec la musique sur le plateau?
Si, on a fait un casting dans plusieurs raves de toute l'Europe.
Oui.
On cherchait. Chercher de la vérité, on cherchait vraiment qui représente ce mouvement culturel, et surtout on cherchait des bonnes personnes, même si c'est très facile, je veux dire, mon impression après avoir fait une plongée dans cet univers, c'est voilà, j'ai trouvé vraiment beaucoup de valeurs, beaucoup de cohérence, comme je disais avant, une forte militance, en fait tout cet imaginaire qu'on pourrait avoir de gens un peu drogués, paresseux et tout ça. Enfin, c'est absolument tout le contraire.
Ça,
c'est
des gens très humains.
Très humains, très dans les valeurs, dans les soins.
Et très blessés aussi, hein, votre groupe de 5 personnes. Il y en a un qui a même un t-shirt Freaks. C'était important pour vous de rencontrer presque des handicapés, mais des gens blessés.
Moi, j'étudie la psychothérapie et donc la psychologie m'a toujours beaucoup intéressé. Je peux vous dire qu'on est tous cassés, tous les êtres humains, sauf que eux, ils le savent. Et voilà donc un premier pas de maturité, de vraiment. Et c'est un peu ce que j'ai appris avec ce projet, à me connecter un peu plus avec ma propre blessure, ma propre vulnérabilité. C'est pour ça que c'est important. C'est cérémonial, c'est fait aussi, parce que c'est d'une manière ou autre, l'être humain fête célèbre sa blessure avec lumière.
Sergi Lopez, ces hommes et ces femmes que vous rencontrez, vous les prenez un peu pour des extraterrestres au début. Oui. Et puis finalement, il y a une idée de solidarité et de compassion beaucoup entre vous tous.
Oui, on est tous extraterrestres en fonction du point de vue, non? Parce que eux, ils me regardent moi comme si c'était moi l'extraterrestre. Oui. Oui, oui, c'est des gens qui font, voilà, la fameuse famille construite au fur et à mesure du voyage. Et si, si, des gens qui font, enfin, déjà dans le plan humain, dans la réalité, on est devenus aussi de vrais amis. Mais c'est vrai que c'est, pour moi, c'était aussi une découverte. Cette idée de cette collectif un peu immature, justement. Et ben justement, j'étais étonné à quel point sa conscience politique, sociale, écologique, à quel point, à part se droguer, danser, à part cette idée un peu superficielle qu'on a sur eux, j'étais étonné de cette maturité qu'ils avaient collective.
Vous pensez que tout le monde peut être acteur ?
Oui. Oui, 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 oui. Parce que si on te met devant une caméra, même si tu joues mal, tu es acteur. Après, il y a des gens qui ont plus de talent que d'autres. Mais acteur, ça veut rien dire. Je veux dire, ça veut dire tu es là devant et puis voilà.
Pourquoi vous l'avez choisi, lui, Oliver Lachey ? Parce qu'il a une grande générosité d'acteur et d'homme aussi, peut-être.
Il a une belle simplicité. Et, ouais. Enfin, je trouve que c'est un signe de maturité. On doit être... simple, non? Et en plus, il est très, enfin, il est dans le cœur tout le temps. Donc, je savais que dès que les spectateurs allaient le voir en image, ils allaient s'identifier radicalement avec lui.
Le film est une expérience spectaculaire. C'est vraiment une vraie transe. Donc, on entre dans cette musique, on plonge dans ces images. On a peur avec eux, et c'est ce que vous vouliez provoquer chez nous aussi, Oliver. Cette peur également dans ce grand voyage.
J'insiste qu'il y a beaucoup de spectateurs qui pensent des choses différentes. Oui. C'est la première fois que j'entends dire que les gens, quelqu'un a peur en faisant ce voyage. Et c'est dans le film, bien évidemment.
Ben oui.
Il y a un spectateur qui le dit.
Oui.
J'ai
sauté de mon siège, moi. Comme j'ai pas sauté de mon siège depuis des années, quoi.
Ah, dans le film, vous dites.
Okay. Oui.
Oui, je pense que ça a été la meilleure manière que j'ai trouvé de prendre soin de le spectateur. De le secouer un tout petit peu. Oui, ça n'a pas été facile pour moi, parce que mon intention, sincèrement, elle n'est pas de jouer de manière sadique avec le spectateur, sinon de lui faire, comme je disais avant, de lui faire regarder à l'intérieur. Bon, des fois, c'est bien qu'on soit un peu secoué. En tout cas, la vie, elle a ce mécanisme. Mm. Qu'est-ce qu'elle fait la vie pour que nous on regarde à l'intérieur, pour qu'on grandisse? Elle nous envoie des crises. La crise, c'est la seule manière qu'on a les êtres humains de nous faire les importantes questions.
Et notamment cette troisième guerre mondiale qui se profile un peu dans le film aussi.
Si, en même temps, les mêmes acteurs, ils disent, ça fait longtemps que c'est la troisième guerre mondiale, en fait, c'est du quotidien aujourd'hui. Donc, eux, ils essaient un peu de ne pas trop tomber un peu dans cette décadence morale, un peu dans laquelle, des fois, la peur nous fait rentrer, non ?
On parle de pas mal d'influences pour votre film, et vous citez Kiarostami.
Si, j'ai beaucoup aimé Kiarostami aussi.
Le goût de la cerise ?
Beaucoup, ouais, ouais. En fait, le rapport à la mort comme une porte à parler avec la vie avec plus de force. J'aime beaucoup aussi Tarkovsky, aussi. Bresson, en fait, j'ai mes maîtres.
Ah oui, pour quelqu'un qui n'aimait pas le cinéma au début, qui ne le connaissait pas, vous êtes bien rencardé, en fait, depuis.
Oui. J'honore mes maîtres tant que je peux.
Vous avez été surpris, Sergio Lopez, vous avez tourné le film, mais de voir cette connexion, interconnexion entre l'image et le son est assez folle, non ?
Si, mais enfin, on dirait que je suis en promo d'un film, mais c'est la première fois que ça m'arrive.
C'est-à-dire,
dans aucun autre film, j'ai senti d'une façon si puissante la différence entre le visionnage que j'ai eu du film chez moi dans un ordinateur et le visionnage en salle.
Oui.
Quand j'ai vu ça, bon, en plus c'était Cannes, donc c'était un super écran, un super son atmosphérique et tout ça. Mais j'ai vraiment eu la certitude qu'il y avait un truc, il y avait des images avec du son. Il n'y avait même pas de personnage. Il y avait deux camions et une petite bagnole qui marchaient dans le désert avec de la poussière. Donc, une image qu'on a déjà vue, peut-être d'autres fois, avec une musique. Et je ne sais pas ce qui se passe, mais je sentais que ça devait être ça du cinéma. Donc, c'est vraiment cette jonction d'image et son, musique, et quelque chose de tellurique qui vient d'en bas. C'est extrêmement puissante. Moi, j'étais assis, alors que j'avais tourné le film, hein, j'ai aussi sauté dans mon siège.
Oui, Oliver, c'était voir la musique et entendre l'image, c'était ça aussi l'idée.
Oui, créer un paysage sonore.
Oui, c'est très réussi.
J'ai écrit ce scénario en dansant. Donc la musique, elle est consubstantielle à l'image. Non, ça fait partie de l'expérience. Et mon intention était un peu que les spectateurs dansent dans la salle de cinéma.
Et il faut absolument aller voir ce film en salle de cinéma. Il s'appelle Sirat, il sort mercredi prochain. Et depuis mercredi, chronique d'Haïfa, histoire palestinienne. Merci à tous les trois, vous restez avec nous après Last Maria on Earth. On parle des films de la semaine.
Christine Masson et Laurent Delmas.
À côté de Chronique d'Haïfa, on va parler des autres films qui sont sortis mercredi. Ciudad sin sueño de Guillermo Galloé. Première fiction du documentariste Tony, un garçon rome de 15 ans, vit dans le plus grand bidonville illégal d'Europe, en périphérie de Madrid. Fier d'appartenir à sa famille de ferrailleurs, il suit son grand-père partout. Mais à mesure que le terrain devient la proie de démolisseurs, la famille se divise. Un film jamais misérabiliste, un souffle de cinéma dans une vraie réalité documentaire, Laurent.
Oui, c'est un mélange très très réussi d'une chronique intimiste entre effectivement un petit-fils et son grand-père, entre ce petit-fils aussi et son lévrier champion de course, même s'il est famélique, mais c'est une vraie relation entre les deux. Et puis c'est par ailleurs et parallèlement, mais de façon imbriquée, la peinture sociale quasi-documentaire du quotidien d'un bidonville madrilène en voie de destruction. Et sans pour autant négliger une attention, une vraie attention aux images, hein, comme ces moments captés à travers les filtres de couleurs d'un téléphone portable ou ces scènes nocturnes filmées avec beaucoup, beaucoup d'intensité. Bref, c'est un premier film qui séduit et étonne à la fois par sa maîtrise et par la façon incroyable qu'il a de mélanger la fantasmagorie et le quotidien sans effectivement l'ombre d'un misérabilisme, et pourtant Dieu sait si le décor y amènerait, et puis avec beaucoup, beaucoup de dignité, tout simplement.
Sergi, Ciudad sin sueño, ça veut dire une ville sans rêve.
Hein,
c'est ça. Celui-là est en français, fils de Carlos.
Aussi, excuse-moi, oui. Aussi une ville sans sommeil.
Sans sommeil, pardon, bien sûr.
Les deux. Oui.
Ah, très important.
Sin sueño et sin sueño.
Je pense que ça joue sur les deux.
Ouais. Oui. Fils de, c'est le titre est français, de Carlos Abascal Peiro, premier film de cet
ex-journaliste.
Une semaine après la présidentielle, la France cherche toujours son premier ministre. Tiens, Nino, jeune attaché parlementaire ambitieux et missionné pour convaincre son père, Lionel Perrin, c'est François Cluzet, d'accepter ce poste, mais cet éternel perdant a coupé les ponts avec la politique et son fils Nino se retrouve embarqué dans une course effrénée où tous les coups sont permis, Laurent.
Oui, alors, pourquoi, mais pourquoi, se demande-t-on, pourquoi l'image est-elle en permanence si marronasse, si moche, pour tout dire, si crade? Moi, vraiment, je me suis posé la question parce que il y a au début les scènes nocturnes, on se dit bon, tout va bien, mais ça va se réveiller. Ça va... Non, pas du tout. Ça reste dans cette tonalité et finalement, ça colle au propos du film parce que c'est pas l'image qui est crade, c'est les gens qu'on voit sur l'écran, c'est-à-dire tous les politiciens sont pourris, les journalistes avec eux. C'est un discours d'un populisme assez bas du front, qui va beaucoup plaire en ce moment parce que c'est la tendance est actuelle. En plus, il s'agit d'un changement de Premier ministre. Alors là, on est aux anges sur l'adéquation avec le réel. Moi, j'ai trouvé que le scénario oscille en permanence entre la farce et le film politique sans jamais choisir, ce qui finit par poser un problème de vraisemblance, de choses plus ou moins grosses et farcesques qui passent plus ou moins bien. Et puis tout ça flotte, y compris sur le casting, parce que les acteurs n'ont pas forcément des choses très très bien à jouer, donc ils se cherchent un peu alors que c'est un beau casting. Bref, moi je regrette le Scheller de l'exercice de l'État ou bien le Parisaire de Alice et le maire.
Moi je pense complètement l'inverse, bien sûr on n'est ni dans Baron Noir, ni dans l'exercice de l'État, et malgré tout il raconte très justement les coulisses de la politique, je trouve, les mauvais coups, les stratagèmes, même sur un ton chargé, des personnages parfois lourdement dessinés, des gags énormes, mais avec énergie et vitalité, et c'est très bien écrit, peut-être un peu moins mis en scène. L'écriture est alerte, hyper bien documentée, et des acteurs qui s'amusent beaucoup.
Si la politique c'est ça, on sait où on va.
Oui, on va mal, et on sait toujours que la politique c'est ça.
Non,
c'est
heureusement que
des coulisses horribles. La Voix du Serpent. En 2024, Kiyoshi Kurosawa a tourné 3 films, dont celui-ci, La Voix du Serpent. Il devrait prendre des vacances, finalement, son talent et son inspiration se tarissent. Cette histoire invraisemblable, un homme dévasté par la disparition de sa fille enquête avec une psychiatre japonaise. Ensemble, ils vont kidnapper des membres d'une société secrète qui aurait fomenté l'assassinat. Mais qu'arrive-t-il à Kiyoshi Kurosawa?
On peut chuter. Voilà, quand on est un très bon cinéaste, on peut chuter. C'est le cas. C'est son deuxième film tourné en France, hein, après Le Secret de la Chambre Noire en 2011. On aurait aimé beaucoup en dire du bien, mais c'est pas possible. Tout est outré, grotesque, répétitif et absolument vide de sens. On aurait aimé se croire dans un polar vénéneux de organique de Thierry Jonquet, mais malheureusement c'est pas ça. Le film accumule les images provocantes qui ne le font absolument pchit, et au milieu, hélas, Mathieu Amalric et Damien Bonnard dans leur plus mauvais rôle et dans leur plus mauvais jour. C'est bien dommage.
L'Évangile de la Révolution, c'est un doc signé François-Xavier de Rouet. C'est un sujet très intéressant. C'est le souffle révolutionnaire qu'a connu l'Amérique latine au XXe siècle et qui doit beaucoup à la participation de nombreux, de millions de chrétiens engagés dans les luttes politiques au nom de leur foi.
Oui, c'est la fameuse théorie de la libération qui a irrigué l'Amérique du Sud à partir des années 60. L'auteur ne se cache pas derrière son petit doigt et son documentaire. François-Xavier Drouet, ancien croyant devenu athée, sympathisant des apatistes, sympathisant de Lula au Brésil. Bref, on sait d'où il parle. Il parle du Salvador, du Brésil, du Nicaragua et du Mexique, avec un fond sonore qui est composé de Victor Jara et de Violeta Parra notamment. Bref, que de la belle musique sud-américaine. Et il s'agit de mettre en avant comment la théorie de la libération peut encore de nos jours être efficace, avec cette formidable citation de Don Elmer Camara, décédé en 99, l'archevêque de Recife. Il disait « Quand je donne à manger aux pauvres, on dit que je suis un saint. Oui. Quand je demande pourquoi les pauvres ont faim, alors, on dit que je suis communiste. »
On va rappeler la sortie de 2 films la semaine dernière, mais qui sont très remarquables. Le Miroir numéro 3, le 9e film de Christian Petzold avec son actrice fétiche.
Merveille.
Paul Abir.
Merveille de film de fantôme.
Et La Femme qui en savait trop de Nader Seva. Remarquable film intime et politique en Iran. Et c'est un film très féministe et très important en ce moment. Très vite, les reprises Entre le ciel et l'enfer, Akira Kurosawa.
Un autre Kurosawa, mais celui-là est très beau. Non, c'est un autre cinéaste, évidemment, 1963, d'après Ed McBain, c'est un film qui a fait date, effectivement.
The Party, Black Edwards.
1968, merveille de burlesque et de loufoque, et puis Claudine Longuet qui chante, et puis cette espèce d'hommage permanent à l'univers de Jacques Tati.
Palombella Rossa, Nanni Moretti, un jeune député communiste frappé d'amnésie, va au cours d'un match de waterpolo rencontrer les fantômes de son passé. L'enfance, l'engagement politique, les médias, le cinéma, c'est drôle et profond à la fois.
C'est Moretti.
Un festival à Deauville.
Deux deux festivals, l'un en Normandie, l'un à Trouville, Offcourt, jusqu'au 12 septembre. C'est un gros focus sur France et Québec. Les organisateurs ont vu 2300 courts-métrages et nous ont sélectionné pour nous 85 courts. C'est dire s'il faut aller à Trouville les voir. Et puis en face, juste en face à Deauville, évidemment jusqu'au 14 septembre, la 51e édition du Festival du film américain de Deauville. Riche programme mémoriel, notamment avec des films inédits d'Alice Guy, un hommage à Paul Newman, Kim en présence aussi de Kim Novak, et puis 13 films en compétition, dont 10 premiers films, c'est dire si c'est un vrai regard sur le cinéma américain actuel.
Il ne reste à peine 1 minute 30 pour les cadeaux, alors on en a 3 cadeaux, bien on sûr, va commencer par qui?
Pour Scandar Coptis, Les Forçats de la Gloire, c'est un film américain dont Samuel Fuller a dit « seul film adulte et authentique produit par Hollywood pendant et sur la Seconde Guerre mondiale, s'il vous plaît ».
Un film de William Wellman.
Par Sidonis, effectivement, avec l'incroyable Robert Mitchum. Pour vous, Sergi Lopez, un vrai film de comédien, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça s'appelle Marco, l'énigme d'une vie, c'est Eduardo Fernandez, ouais. C'est incroyable cette histoire de mensonge sur la déportation, c'est chez Epicentre, et vraiment je vous recommande chaudement de voir ou de revoir ce film.
Merci beaucoup.
Et puis pour vous Oliver, alors je risque, je ne sais pas ce que vous pensez de la corrida, Tardes de Soledad.
Ah, je n'ai pas vu.
Ah ben bravo, mais très bien, de Albert Serra, voyez-le, c'est chez Blackout. Pourquoi pas. Et c'est sur le torero Andrés Rocarré, avec en plus en bonus 42 minutes d'entretien avec Serra, chez Blackout.
Bah oui, vous avez tourné avec Albert Serra.
Oui, bien sûr.
Dans Pacifiction.
On appelle ça tourner aussi, oui, c'est vrai. Il vient pas du cinéma, donc il tourne d'une façon, avec une liberté, des fois, désarmante.
Bah oui, décidément.
Il tourne.
Ouais. Comme avec
prise de 3 quarts d'heure.
Exactement.
Avec Oliver Latché, c'était vraiment très particulier.
Sirat,
merci à tous les deux d'être venus pour ce film qui sort mercredi prochain. Et merci Scandar Copti pour ce film chronique d'Haïfa, histoire palestinienne. Merci à votre traducteur, Xavier Combe. Merci à nos voix françaises pour ces extraits. Philippe Lefébure, Benjamin Ducy, Perrine Malinge, Fabien Fourel, Camille Marigot et à notre belle équipe, Valérie Ayestaraï, Benjamin Ducy et Djoubaka. Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.